Bonjour frères et sœurs, un très joyeux sabbat à vous tous. Si je vous posais la question aujourd'hui, pourquoi participons-nous à l'Église de Dieu? Quelle serait votre réponse? Peut-être que vous diriez, ben, il y a une sainte convocation ordonnée par Dieu, je dois y répondre, et ça veut dire que je participe à la vie de l'Église. Et ça serait une bonne réponse. Si Dieu le dit, ça suffit, on devrait le faire même si on ne sait pas plus que ça. Mais si on est convaincu que c'est la volonté de Dieu, on doit obéir. Mais si je poursuivais ces questions en disant, et pourquoi est-ce qu'il y a une sainte convocation? Qu'est-ce qu'on dirait pour répondre à cette question? Eh bien, on dirait peut-être que l'Église doit se réunir pour que nous puissions apprendre, communier ensemble, nous encourager les uns les autres. Ça fait partie de la vie de l'Église. Et ça aussi, ça serait une excellente réponse. Et si je posais la question ensuite, mais qu'est-ce que l'Église au juste? Et pourquoi y a-t-il une Église? Quelle serait notre réponse à ces questions-là? Ce sont des questions qui sont essentielles pour le chrétien, la chrétienne, et qui sont traitées dans la Bible. C'est un enseignement fondamental de la Bible, l'existence de l'Église de Dieu. Puisque c'est un sujet important dans la Bible, cela fait partie aussi de nos croyances fondamentales dans l'Église de Dieu, Association mondiale. C'est une de nos croyances fondamentales que j'aimerais que nous regardions ensemble aujourd'hui, le temps de ce sermon. Ceci nous amène dans cette série sur les croyances fondamentales de l'Église à la croyance numéro 17. Je vous lis. L'Église de Dieu est un corps spirituel composé de croyants qui ont reçu l'Esprit Saint et qui sont guidés par lui. L'Église n'est pas une dénomination, une organisation humaine ou un bâtiment, mais plutôt le peuple avec qui Dieu travaille à travers les âges. Le nom biblique de cette Église est l'Église de Dieu. Sa mission est de prêcher l'Évangile du royaume de Dieu à venir, à toutes les nations, et de faire des disciples de tous ceux qui répondent à l'appel divin, en les assistant dans leur développement spirituel et dans leur réconciliation à Dieu. Voilà, dans cinq phrases, notre croyance fondamentale concernant l'Église. Et comme nous faisons d'habitude dans cette série, je voudrais le décortiquer en prenant phrase par phrase les différents aspects de ceux qui sont mentionnés ici, et puis approfondir, expliquer, pour que nous puissions tous bien comprendre ce que cette croyance fondamentale veut dire et quels sont les éléments qui la composent. Alors, on va commencer avec les deux premières phrases ensemble, puisqu'elles vont vraiment de pair. Il s'agit du revers d'une médaille. Hein. Les deux premières phrases sont celles-ci. L'Église de Dieu est un corps spirituel composé de croyants qui ont reçu l'Esprit Saint et qui sont guidés par lui. L'Église n'est pas une dénomination, une organisation humaine ou un bâtiment, mais plutôt le peuple avec qui Dieu travaille à travers les âges. C'est important à noter parce que souvent, dans notre usage habituel en français aujourd'hui, quand on parle d'une église, c'est souvent d'un bâtiment qu'on parle. Mais bibliquement, il ne s'agit pas de bâtiment. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament un bâtiment qui est appelé une église. L'église, c'est les congrégations qui composent le tout, cet organisme spirituel. L'Église n'est pas non plus une dénomination. L'Église de ceci, l'Église catholique, ou l'Église protestante, ou l'Église orthodoxe, ces différentes dénominations. Ça, bibliquement, ce n'est pas l'Église non plus. Ce n'est pas juste un corps physique, un groupe de gens physiques, ni une association quelconque, comme nous avons une association, qui est nécessaire pour permettre à l'Église de fonctionner légalement et efficacement aujourd'hui. Mais là n'est pas l'Église non plus. C'est un corps spirituel. Cela signifie que la véritable Église de Dieu s'identifie par des éléments invisibles, non pas visibles. Puisque c'est un corps spirituel, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau spirituel, qu'on peut distinguer les membres de l'Église de Dieu de ceux qui n'en font pas partie. Le mot « église » dans le grec, vous le savez probablement, c'est « ecclésia ». Nous avons le mot « ecclésiastique » qui vient directement de ce mot dans le grec. Ecclésia est composé de deux parties. Il y a ek, qui veut dire appelé, et puis il y a klésia, qui veut dire hors d'eux, qui a le sens d'une vocation, à part, de faire quelque chose à part, un peu différent des autres. Donc, l'ecclésia, c'est un groupe de personnes réunies dans un but précis que ceux qui ne font pas partie de l'Église n'ont pas. Ils n'ont pas ce même but. C'est un but à part, différent des autres. Commençons notre étude de ceci dans Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Nous sommes dans le contexte du jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église, pour ainsi dire. Et Pierre prononce un premier sermon inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Et après avoir entendu son sermon, on peut dire, ou son discours, nous lisons verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les appellera. Et si nous descendons maintenant au verset 47, l'activité de l'Église, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient ou ceux qui devaient être sauvés. C'est Dieu qui choisit, il appelle de sortir du monde et de faire partie d'un groupe à part. Il y a la question de l'appel de Dieu. Un chrétien ne peut pas se porter volontaire, il ne peut pas s'engager volontairement dans l'Église. Il doit être appelé d'abord. Bien entendu, nous devons répondre volontairement à cet appel pour en faire partie, mais Dieu doit faire le premier pas. C'est à lui d'agir d'abord. Et si Dieu n'attire pas quelqu'un vers son Fils, il reste dans l'aveuglement général qui est systématique dans notre monde moderne. Dieu doit d'abord nous appeler. Lorsque nous acceptons cet appel, nous répondons à l'appel quand nous nous repentons, quand nous croyons l'Évangile, quand nous avons foi dans les promesses de l'Éternel, alors, par le baptême et par l'imposition des mains, nous pouvons avoir nos péchés pardonnés et recevoir le don du Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que nous appartenons véritablement à Christ et que nous entrons à part entière dans l'Église de Dieu. Et c'est là où, officiellement, pleinement, nous faisons partie de l'Église. Bien entendu, avant notre baptême, nous en faisons partie, nous sommes considérés comme des membres de l'association ou des membres de l'Église, de pleins participants. Mais spirituellement, c'est uniquement au moment du baptême que nous entrons à part entière dans l'Église. Nous lisons également dans Romains chapitre 8 un autre élément qui est nécessaire. Il ne suffit pas, ça c'est le point de départ, mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous ne pouvons pas simplement nous faire baptiser, recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu et puis nous reposer sur nos lauriers. Il y a autre chose, il y a une action qu'il faut accomplir continuellement. Et ça, nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous devons activement nous laisser conduire, suivre le chemin qui est tracé devant nous par Dieu à travers sa puissance qui est son Saint-Esprit. Ça nécessite une attention constante de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et nous devons jamais prendre cet appel pour acquis, parce que c'est une des plus merveilleuses bénédictions que Dieu peut nous adresser, que de nous attirer, de nous mettre sur le début du chemin, le chemin qui va amener finalement à la vie éternelle. Éphésiens chapitre 1, dit quelque chose d'intéressant concernant notre appel. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul s'adresse à la congrégation d'Éphèse en disant « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine dans les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Il y a une espérance qui s'attache à son appel. Nous avons un espoir particulier quand Dieu nous appelle, un espoir que nous n'avions pas de la même manière avant de recevoir cet appel. Et c'est comme si de nouveaux horizons s'ouvrent devant nous. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Un grand espoir. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Cette porte est ouverte alors, après cet appel. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Nous ne devons jamais prendre à la légère cet appel. Parfois, il m'est arrivé quelquefois dans mon pastorat où une personne me demande « Mais je n'ai jamais vu la main de Dieu dans ma vie. Je n'ai jamais vu très ouvertement et très directement, je n'ai jamais vu ça. » Et assez souvent, je réponds « Et votre appel ?» Et parfois, ils sont un peu surpris. Mon appel, mais oui. Il y avait, pendant des années, vous ne compreniez pas ces vérités qui sont pourtant si claires dans l'Église. Et quand Dieu retire le voile et il vous attire, il vous appelle vers son Fils, là, vous comprenez à comprendre, commencez à comprendre des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Ça, c'est un miracle. C'est le miracle de l'appel de Dieu. Et nous pouvons regarder dans les Écritures et voir clairement des choses que des personnes qui ne sont pas dans l'Église de Dieu, qui même ceux qui ont étudié la Bible toute leur vie en hébreu et en grec, et en long et en large, ils n'arrivent pas à voir des vérités qui sont pourtant tout simples. L'appel de Dieu est un miracle et nous ne devons jamais prendre ce miracle à la légère. Cette vérité concernant la composition spirituelle de l'Église de Dieu, pour marquer la différence, parfois on parle en termes d'Église visible et l'Église invisible. L'Église visible serait celle qui figure dans la liste des membres de l'association. Voilà, tous les membres de l'association. Ça, c'est ce qui est visible. Mais l'Église invisible, c'est ceux qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit et se laissaient guider par cet Esprit. Et à un moment donné, il va y avoir des gens, certainement sur la liste des membres, qui ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Ce qu'on voit visiblement va être, nous l'espérons, très largement conforme à ce qui est invisible, mais si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui viennent, qui s'intéressent, qui restent un petit peu, et puis ils s'en vont, et on peut constater qu'ils n'ont jamais vraiment compris ou n'ont jamais vraiment mis leur vie entre les mains de Dieu. Nous n'utilisons pas généralement ces termes dans l'Église. Ce sont plutôt autres églises qui étudient ces passages et comprennent l'idée de l'Église visible et invisible, mais qui ne comprennent peut-être pas la réalité. La Bible précise cependant, même si nous n'employons pas ces termes habituellement, la Bible précise que le simple fait d'aller s'asseoir dans une congrégation ne veut pas dire qu'on est membre de l'Église. Le fait qu'on se fait baptiser, on se fait imposer les mains, si on ne s'est pas vraiment repenti sincèrement dans son cœur devant Dieu, si on n'a pas vraiment foi dans le sacrifice de Christ et les promesses de Dieu, eh bien les péchés ne sont pas pardonnés et l'imposition des mains ne donne pas lieu au don du Saint-Esprit. Le ministère fait tout son possible pour s'assurer que la personne comprenne vraiment et s'engage sincèrement. Il est rare que quelqu'un passe à travers, mais cela se produit parfois. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ce que l'on voit et la réalité ultime spirituelle. Comme j'ai dit, le fait d'aller à l'église, s'asseoir dans une congrégation, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment, dans le sens spirituel, membre de l'Église de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 9, c'est Ça ne devrait pas nous surprendre, c'est marqué dans le Nouveau Testament que c'est ainsi. 1 Jean chapitre 2, verset 19. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Jean parle de personnes qui étaient physiquement intégrées à l'Église, mais n'y étaient pas spirituellement. Et ça, ça a eu lieu au 1er siècle, et c'est rare, mais ça a eu lieu encore aujourd'hui parfois. 1 Jean chapitre 2, verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous. S'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Tous ne sont pas des nôtres. Et quand nous regardons le verset 18, il y a parfois même des gens qui intègrent l'Église visible qui ont des esprits néfastes contre l'œuvre de Dieu. Verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Verset 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » C'était le cas à l'époque. Il y a des gens qui viennent pour diverses raisons et parfois ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller parce qu'ils ne font pas vraiment partie de l'Église. Je pense ici qu'il ne s'agisse pas seulement d'hommes qui sont partis physiquement, mais d'hommes qui sont partis spirituellement également. Ils sont vraiment sur une autre longueur d'onde au point d'être appelés antéchrist ici. Ça arrive dans l'Église de Dieu aussi. Heureusement, c'est rare, mais ça arrive. Et nous devons comprendre, voilà l'importance de comprendre que l'Église de Dieu s'identifie par des choses invisibles et spirituelles, non pas simplement ce qui est visible, ce qu'on peut voir. Voilà une personne qui est assise dans la congrégation, etc. Christ est la tête de ce corps spirituel qui est appelé son corps dans la Bible, le corps de Christ. Il est le chef de l'Église et on doit se soumettre à son autorité. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, parlant du Père qui a fait ceci en faveur de Jésus-Christ, le Fils. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église de Dieu est un corps spirituel, dont le chef ou la tête, si on veut, est Jésus-Christ. Et Dieu le Père a mis tout sous ses pieds. Il a toute autorité. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28, quand il a expliqué à ses disciples quoi faire, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez donc. » Donc, le Père a tout remis entre les mains de Jésus-Christ. Je ne vais pas m'y référer, mais je vous citerai 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, 27, qui dit « Vous êtes le corps de Christ » et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. L'Église est le corps spirituel de Christ. Nous sommes ses membres, nous sommes attachés à lui. Nous avons différentes fonctions dans le corps de l'Église, tout comme nous avons différentes parties, membres du corps qui ont des fonctions différentes. Mais nous sommes tous attachés les uns aux autres, reliés par Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Les membres de l'Église, le corps spirituel de Christ, ont le Saint-Esprit, ont reçu ce don, et sont guidés par le Saint-Esprit en se soumettant à celui-ci. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur dans Jean chapitre 16. Regardons Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Plusieurs aspects du fonctionnement du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. La fonction du Saint-Esprit. Dieu nous enseigne à travers cette puissance. Il nous donne un aperçu de l'avenir selon cette puissance également. La puissance du Saint-Esprit transmet fidèlement ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et alors nous avons plusieurs responsabilités envers l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Si nous ne soumettons pas au fonctionnement du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit veut nous guider et nous refusons, nous sommes distraits, nous ignorons, nous passons à côté, nous pouvons un peu comme un feu éteindre le Saint-Esprit. Nous lisons également dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme un sceau pour le jour de sa délivrance. » Nous pouvons éteindre le Saint-Esprit, nous pouvons attrister, handicaper le Saint-Esprit également, si nous ne voulons pas nous soumettre pour être guidés, pour qu'il nous montre le chemin à suivre. Les membres de l'Église, dans le sens spirituel, recherchent la direction de Dieu et ils s'y soumettent. Ils cherchent la volonté de Dieu avant leur propre volonté. Le Saint-Esprit divin travaille avec nos consciences qui doivent être formées et encadrées par la parole de Dieu pour être justes, mais nos consciences sont très précieuses. La petite voix dans la tête qui dit « ça, tu ne devrais pas le faire, ça, tu sais très bien que tu devrais aller faire ceci ou cela », c'est un don très précieux que Dieu forme et que le Saint-Esprit, que Dieu à travers son Saint-Esprit, utilise pour nous guider dans notre cheminement avec Dieu. Nous tous, nous devons être très sensibles pour réagir promptement quand le Saint-Esprit nous guide, quand Dieu nous guide à travers son Esprit Saint. C'est très important. Avant l'époque des aides à la navigation moderne, il y a l'histoire d'un voyageur qui effectuait la traversée de l'Atlantique à bord d'un bateau équipé de deux boussoles. Il y avait une boussole qui était fixée au point où l'homme à la barre pouvait le voir. L'autre boussole était fixée sur l'un des mâts et l'on voyait souvent un marin monter pour l'inspecter. Alors le passager a demandé au capitaine « Pourquoi avez-vous deux boussoles ?» Et le capitaine a répondu « C'est un navire de fer et la boussole sur le pont est souvent affectée par son environnement, par la proximité de la coque de fer. » Tel n'est pas le cas quand la boussole est en haut du mât. Celui-là est au-dessus de cette influence. Nous sommes guidés par la boussole d'en haut. Ah, c'est une question intéressante pour nous de considérer dans ce contexte. Nous, en tant que chrétiens, sommes-nous guidés par la boussole d'en haut ou par nos propres idées, par nos propres choix à nous, par ce qui nous semble bien de faire? Nous devons chercher à être guidés par la boussole d'en haut, d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Alors, la troisième phrase dans cet énoncé des croyances. Troisième phrase est courte. Le nom biblique de cette Église est l'Église de Dieu. Le nom biblique de cette Église est l'Église de Dieu. La Bible montre que les noms ont une importance aux yeux de Dieu. Il y a une grande signification et une grande puissance associée à la dénomination des choses, au nom que l'on porte. Et Dieu même, plusieurs fois dans la Bible, il change le nom des êtres pour refléter la réalité de ce qu'ils sont ou ce qu'ils vont devenir. Dieu appelle les choses ce qu'elles sont. Il utilise une variété de noms pour se décrire, pour se nommer. Il est le Tout-Puissant, il est « Je suis ». Il est le Dieu qui vous guérit, le Seigneur des armées, la parole, et ainsi de suite. Beaucoup de noms pour Dieu. Nous avons un article sur Vie, Espoir et Vérité qui énumère beaucoup de noms de Dieu que non que Dieu utilise pour se référer à lui-même, qui explique différentes facettes à qui il est. Dieu choisit parfois dans la Bible des noms, à l'avance de la naissance d'un enfant. Il a dit ce qu'on devait appeler Ismaël. Ismaël qui n'était même pas quelqu'un de choisi par Dieu pour l'accomplissement de son plan à long terme. Il allait travailler à travers Isaac et sa descendance. Mais il a dit à Agar, tu donneras le nom d'Ismaël à ce garçon. Isaac a eu son nom choisi par Dieu à l'avance. Josias, Cyrus, Jean, Jésus ont tous eu leur nom choisi directement par Dieu avant la naissance, parfois longtemps avant la naissance, dans le cas de Cyrus, très longtemps avant sa naissance. Dieu veut appeler les gens ou les êtres ce qu'ils sont en réalité. Dieu aussi change des noms parfois dans la Bible. On est né avec un nom et Dieu dit non, on va le transformer, tu seras appelé maintenant ceci. Quelques exemples. Lucifer, l'étoile du matin, a eu son nom transformé en Satan, le diable, l'adversaire, le calomniateur. Dieu l'appelle ce qu'il est. Abraham, qui veut dire père exalté, a eu son nom changé en Abraham, père d'une multitude. Sarai a eu son nom changé en Sarah, qui veut dire princesse. Jacob, qui veut dire supplanteur ou fourbe, a eu son nom changé en Israël, prince de Dieu. Et Simon, qui veut dire entendu, a eu son nom changé en Pierre, ou ajouté Simon-Pierre. Pierre, qui veut dire une pierre. C'est de là que nous avons le mot. Donc, les noms ont une importance aux yeux de Dieu. Et s'il s'agit de quelque chose qui est lié à Dieu, nous devons faire très attention de respecter les noms que Dieu a choisis. Jean chapitre 17, verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Je n'ai pas de tournée de page, moi. Quelque chose que Jésus a prié dans sa prière d'intervention auprès de Dieu en faveur de ses disciples. Jean 17, verset 11, il demande, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Garde-les en ton nom. Le nom de Dieu veut dire la puissance de Dieu, la personnalité de Dieu, puisque ces noms révèlent qui Dieu est. Et Jésus a prié que ses disciples restent à l'intérieur du champ d'œuvre de Dieu, que Dieu s'occupe d'eux, qu'il les protège. Encore une fois, nous avons un passage qui montre que le nom, en particulier le nom de Dieu, est très important. Et cette idée de nommer les choses ce qu'elles sont est un point qui se répète beaucoup dans la Bible. Il y a un endroit dans le Nouveau Testament où l'Église est appelée les Églises du Christ. C'est Romains chapitre 16, verset 16. Mais il y a 12 endroits dans la Bible où l'Église est appelée l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, 12 fois. 12, nous savons, a une signification dans la Bible. Et si vous n'avez jamais fait cette étude, c'est une bonne idée de marquer ces passages quelque part dans votre Bible, pour que si quelqu'un vous pose la question, vous puissiez y trouver facilement. Voilà pourquoi notre Église se nomme l'Église de Dieu, parce que c'est le nom biblique pour l'Église. Alors, je vais vous donner la liste. On ne va pas nous y référer, mais vous pourrez les vérifier à loisir si vous le désirez. Voici donc la liste. Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 16 et verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 16 et verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Galates, chapitre 1, verset 13. Galates chapitre 1, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Et 1 Timothée chapitre 3, verset 5 et verset 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 5 et verset 15. Comme j'ai dit, la Bible souligne que c'est important de faire attention au nom que Dieu donne au peuple, aux gens avec lesquels il travaille. De respecter la nomenclature, comme on dit parfois, que Dieu donne aux choses. Ça nous aide à comprendre leur signification et leur importance. C'est l'Église de Dieu, puisque cette Église appartient à Dieu. Dieu est responsable de cette Église. C'est lui qui la guide et la protège. Donc, le nom, c'est l'Église de Dieu. Maintenant, avec les associations qui existent aujourd'hui, pour se différencier d'autres associations qui peuvent porter le nom Église de Dieu, il est acceptable, et même bibliquement, ça se voit aussi, qu'on peut ajouter un mot pour identifier le lieu d'une certaine congrégation, ou de nos jours, ça serait plutôt une association. Alors, nous avons choisi l'Église de Dieu Association mondiale pour nous différencier d'autres Églises de Dieu, mais nous comprenons que l'Église de Dieu est le nom. Si quelqu'un me pose la question « Quel est le nom de votre Église ?», moi, je dis toujours « L'Église de Dieu ». Et puis, s'il pose d'autres questions, légalement, l'association s'appelle comme ceci. Mais le nom de l'Église, ce corps spirituel, c'est l'Église de Dieu. Et on peut trouver ça dans l'Église de Colosse ou l'Église d'Éphèse. Il y a des endroits, des passages dans le Nouveau Testament où l'Église est identifiée aussi par le lieu où s'assemble une congrégation. Ça, c'est acceptable. Maintenant, la quatrième phrase, on va le diviser en deux parties. Quatrième phrase, on divise en deux parties, parce que il y a deux pensées assez distinctes dans cette phrase. Quatrième phrase, première partie, dit « Sa mission, la mission de l'Église, est de prêcher l'Évangile du royaume de Dieu, le royaume de Dieu à venir, à toutes les nations, et de faire des disciples de tous ceux qui répondent à l'appel divin. » Je répète encore, « Sa mission est de prêcher l'Évangile du royaume de Dieu à venir à toutes les nations et de faire des disciples de tous ceux qui répondent à l'appel divin. » Et ça, c'est une chose que Jésus a dit très explicitement dans Matthieu chapitre 28. Je l'ai cité en partie tout à l'heure. Regardons Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous voyons un passage parallèle dans Marc chapitre 16, verset 15. Mais ce que nous lisons ici, c'est que la mission de l'Église, c'est de prêcher, de proclamer la bonne nouvelle, c'est de faire des disciples, c'est-à-dire des étudiants qui vont vouloir suivre Jésus-Christ dans son enseignement, qui vont vouloir étudier pour mieux apprendre, de mieux en mieux apprendre comment vivre dans cette voie de vie. Et de faire des disciples de ceux qui répondront à l'appel de Dieu. Nous prêchons, nous n'essayons pas, un peu à la façon que certaines églises le croient aujourd'hui, nous n'essayons pas désespérément de sauver les gens aujourd'hui, croyant qu'ils seraient perdus à tout jamais si jamais ils ne viennent pas à Dieu dans cette vie présente. C'est Dieu qui décide quand il va appeler, l'appel de Dieu est nécessaire. Et la Bible révèle que Dieu n'appelle pas tout le monde aujourd'hui. Il appelle un petit troupeau maintenant, plus tard, à la résurrection, d'autres gens auront leur seule occasion, seule et unique occasion de connaître Dieu et de répondre à cet appel. Mais si on ne reçoit pas l'appel de Dieu maintenant, impossible de venir à lui. Alors, ce n'est pas comme on le prétend. Ah, vous pensez que les gens peuvent avoir une deuxième chance, qu'ils peuvent mener mauvaise vie maintenant, ils auront toujours une chance. Non, il n'est pas question de ça. C'est une question de quand on reçoit l'appel de Dieu. Parce que si on ne reçoit pas l'appel de Dieu, il est impossible de venir à Dieu. Comme nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi, Jésus a dit, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dieu doit attirer. Et la Bible montre qu'il n'attire pas tout le monde maintenant. Certains, ils se les réservent pour plus tard. Donc, nous devons faire des disciples. Disciple, dans le grec, ça veut dire quelqu'un qui apprend. Donc, nous devons aider les gens à comprendre l'importance d'une relation avec Dieu. Nous devons les aider à avoir le désir de voir l'importance, de comprendre l'importance d'apprendre de Dieu. Nous devons les aider à comprendre l'importance de devenir des étudiants à vie. Nous apprenons toujours, tout au long de la vie, nous avons de nouvelles choses à apprendre et d'approfondir pour nous aligner de mieux en mieux sur le mode de vie de Dieu. Regardons à ce sujet 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. De Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons un ministère de réconciliation. Par la prédication de l'Évangile, Dieu va attirer certaines des personnes qui entendent cette prédication à son Fils et ils pourront être réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ et par l'entremise de l'enseignement que l'Église donne. Nous montrons le chemin pour que les gens puissent venir, revenir à Dieu. Nous devons tous travailler ensemble pour accomplir cela. Mais tout le monde, évidemment, dans l'Église, n'a pas exactement le même rôle. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a une longue discussion de la part de Paul sur la nature du corps de Christ. Et Paul explique qu'il n'y a qu'un seul corps, mais composé de beaucoup de membres, et que les membres n'ont pas tous les mêmes fonctions, n'ont pas tous les mêmes dons. Nous avons tous des dons de l'Esprit pour aider, pour apporter notre soutien et notre force au corps. Mais tout comme le pied et la main et l'œil et l'oreille sont spécialisés dans leur service au corps, leur domaine de fonctionnement, eh bien, nous avons des domaines différents, des capacités différentes et des fonctions différentes dans ce corps spirituel. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Paul dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, ça veut dire service, diversité de service, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quels que soient les dons que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne, nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné pour le bien-être du corps, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tous ne sont pas appelés à prêcher l'Évangile au monde, donc au sens formel, bien que nous devons travailler ensemble pour montrer, faire luire notre lumière, pour montrer le bon exemple. Tous n'ont pas le don de la prophétie, la prédication inspirée. Ça, c'est un don que Dieu donne à ceux À qui il a choisi de le donner? Ça dépend de lui. Ceux qui prêchent ont besoin que d'autres travaillent avec eux afin de permettre à ce don d'être pleinement efficace. On doit s'encourager, s'épauler mutuellement dans nos différents fonctionnements. Alors, quel que soit notre rôle à jouer, à nous de faire ce que nous pouvons au niveau de nos congrégations tout d'abord et au niveau de l'Église dans son ensemble pour faire avancer son œuvre, pour faire avancer le progrès. Parmi ceux qui vont entendre la prédication de l'Église, certains vont être appelés par Dieu et ils vont s'ajouter à nos rangs. C'est quelque chose que chacun de nous peut faire dans nos congrégations, montrer un bon exemple, montrer un exemple qui tranche avec ce que l'on voit dans le monde, montrer un exemple de ceux qui sont enthousiastes à l'idée d'apprendre spirituellement, de mettre en pratique davantage ce que nous voyons dans la Bible. L'exemple de gens qui cherchent activement à apprendre et à appliquer cette connaissance spirituelle qui devient de plus en plus profonde avec le temps qui passe. Quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir vu un film intitulé « Beau geste » avec Gary Cooper comme vedette. Le film a eu lieu, l'histoire a eu lieu en Afrique du Nord, où les tribus Touareg attaquaient des légionnaires françaises, les légionnaires étrangères, dans une forteresse perdue dans le désert. Et finalement, arrivait le moment où il n'y avait que 4 légionnaires qui étaient restés en vie. Les Touaregs à l'extérieur ne le savaient pas. S'ils avaient su qu'il y avait seulement 4 hommes valides, 4 hommes vivants à l'intérieur de cette forteresse, ils étaient bien assez nombreux pour prendre la forteresse d'assaut. Alors les légionnaires ont élaboré un plan pour cacher leur faiblesse. Ils ont calé les cadavres de leurs camarades le long du mur et ils ont fait des allers-retours ça et là en tirant avec les fusils de leurs amis décédés déjà. Et de l'extérieur, c'était impressionnant, c'était convaincant. Ils pensaient qu'il y avait beaucoup d'hommes valides à l'intérieur qui pouvaient résister à un assaut. Mais en fait, la réalité était bien différente. 1 Corinthiens chapitre 12 nous encourage à ne jamais permettre à ce qu'une telle situation se produise dans l'Église de Dieu. Avec quelques professionnels, on va dire, qui courent partout, en tirant aux armes d'une Église spirituellement inactive pour la plupart. Nous devons tous être actifs, à l'œuvre, impliqués à faire notre part. Par la prière, par les encouragements que nous pouvons donner les uns aux autres, en nous portant volontaires pour aider comme nous le pouvons dans la vie de l'Église. Je crois, frères et sœurs, dans la région francophone de l'EDAM, c'est ce que nous avons pour la plus grande partie, c'est ce qui se passe. Et c'est très encourageant pour nous qui travaillons et sommes au courant de ce qui se passe dans différentes régions. Mais il est important de persister. Nous devons tous continuer de faire notre part individuellement pour nous assurer que cela puisse continuer comme ça à l'échelle mondiale dans l'Église. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Voilà ce que nous devons accomplir avec l'aide de Dieu. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous ne puissions plus le faire. Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » C'est un aspect de notre mission, de continuer de le prêcher le plus largement possible. Et grâce à Dieu, nous faisons cela de plus en plus maintenant. Nous avons sur notre site internet en français plus de 1500 personnes qui viennent regarder, lire des passages chaque jour. 1500 personnes par jour, et ça vient vraiment de partout. De l'Europe, de l'Amérique du Nord, des Antilles, de l'Afrique, un peu partout. Et ça, c'est une chose qui est très encourageante. Ça veut dire qu'on est dans les 45 000, 50 000 personnes par mois maintenant qui viennent regarder notre site Internet. Grâce à cette croissance qui se fait petit à petit, il y a un groupe de lecteurs qui se dessine, qui se complète avec le temps. Cela fait partie de notre mission, de prêcher l'Évangile au monde entier, pour servir de témoignage. C'est notre mission, mais c'est aussi une prophétie. Dieu fera en sorte que cela ait lieu exactement comme il le veut. Dans le passé, il y avait les hommes qui ont fini par quitter l'Église de Dieu, mais des hommes dans des positions de responsabilité qui se moquaient un peu de l'idée que cela faisait partie de notre mission. Ils disaient non, c'est Dieu qui fera ça, c'est simplement une prophétie. Mais qui va accomplir cette prophétie? Dieu va le faire, mais comment? À travers ses instruments physiques. C'est un aspect de notre mission. C'est une prophétie aussi, mais c'est aussi des ordres pour nous, des choses que nous devons viser, nous devons chercher à faire cela. Maintenant, deuxième partie de cette quatrième phrase, 4B. 4B. Je relis la première partie pour qu'on revoie le contexte. Sa mission de l'Église est de prêcher l'Évangile du royaume de Dieu à venir à toutes les nations et de faire des disciples de tous ceux qui répondent à l'appel divin. Voilà la deuxième partie maintenant. En les assistant dans leur développement spirituel et dans leur réconciliation à Dieu. Nous l'avons lu dans Matthieu 28, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que nous avons appris de nos prédécesseurs dans la foi, nous devons le transmettre à ceux que Dieu appellera par notre œuvre, par nos activités. Romains chapitre 14, verset 19 dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » À l'édification mutuelle. C'est un aspect de notre mission, de s'encourager, d'aider à grandir dans la foi. Et ça, frères et sœurs, c'est une chose que nous pouvons apprendre à faire dans nos conversations, de chercher des sujets de conversation qui vont être encourageants et stimulants, non pas pour enseigner les autres, mais pour s'encourager mutuellement. Ça, c'est une chose qui est très, très utile, de rechercher l'édification mutuelle. Je connais des membres de l'Église qui sont très doués pour cela. Ils ont le don de trouver des questions percutantes, intéressantes, et puis d'engager une conversation. Comme j'ai dit, non pas pour enseigner ou pour disséminer une idée concrète, mais simplement pour s'encourager et veiller à l'édification des uns et des autres. Dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons certains des dons que Dieu a donnés. Éphésiens chapitre 4. Verset 11, Éphésiens chapitre 4, verset 11, en parlant de comment Jésus-Christ organise son Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà un aspect de notre mission, de nous assister mutuellement dans le développement spirituel et dans notre réconciliation avec Dieu. Rappelons-nous ce que nous avons, j'ai déjà cité tout à l'heure, Jean chapitre 6, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dieu appelle. Et quand Dieu appelle, eh bien nous devons aider ceux que Dieu attire vers nous. Pourquoi besoin de cet appel? Pourquoi besoin d'un groupe assez restreint aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de faire comme cela? Pourquoi ne pas simplement ouvrir les portes, ouvrir les esprits de tout le monde et permettre à tout le monde de venir maintenant? Ça, c'est le sujet de tout un sermon, mais brièvement, on peut répondre comme ceci. Dieu a un plan. Il a un plan qu'il a formulé pour le salut de tous les enfants qu'il allait créer, et ce plan existait avant même qu'il ne crée Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est une phrase simple, ça. Dieu a un plan. Mais cette petite phrase a une signification terriblement puissante. Elle procède pas à pas. Il procède, ce plan de Dieu, pas à pas depuis la fondation du monde jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre et même au-delà, au-delà de cette terre physique. Nous avons un aperçu de ce qui va venir après, à la fin du livre de l'Apocalypse. 1 Corinthiens 15, verset 22. « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Chacun en son rang. Dieu a prévu de donner l'occasion de salut, d'appeler, d'attirer tout le monde, mais chacun en son rang. Ce n'est pas tout le monde en même temps. L'Église de Dieu est appelée, attirée par Dieu le Père vers son Fils, maintenant en avant du reste de l'humanité, pour apprendre, pour devenir des disciples. Apprendre avant que le reste de l'humanité ne vienne apprendre le mode de vie de Dieu. Nous sommes appelés à connaître ce mode de vie maintenant, de développer son caractère, de grandir pour lui ressembler de plus en plus. Le jour de la Pentecôte, nous avons célébré très récemment la fête des prémices, souligne cette vérité. Il y a une première récolte des blés et une deuxième récolte à la fin de l'été, en automne. Il y a plusieurs récoltes. Nous ne sommes pas appelés maintenant pour sauver le monde. Nous sommes appelés pour être formés pour que, au moment où Dieu va ouvrir les esprits de toute la population de la terre, il y ait un peuple formé de pouvoir assister Jésus-Christ dans leur enseignement. Dans leur enseignement. Hébreux chapitre 12, verset 23, appelle l'Église l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés. Ça parle de nous et de nos prédécesseurs dans la foi. Il y a une première récolte et il y aura une autre plus grande récolte plus tard. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui montrent qu'il n'est pas l'idée de Dieu de sauver tout le monde maintenant. Chacun en son rang. Les paraboles de Jésus-Christ, à l'opposé de ce que prétendent beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, n'étaient pas pour rendre plus claire la signification de la leçon. C'était pour cacher les choses aux gens qui n'étaient pas appelés. Les paraboles étaient pour cacher la vérité à ceux qui n'avaient pas eu le voile retiré. Ça, nous lisons dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 16. Romains chapitre 11, versets 25 et 26 dit « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Dieu procède étape par étape. OK, je vais ouvrir les esprits ici. Et ça, je le réserve pour un moment plus tard. Dieu choisit à quel moment il va appeler. Le verset 26 de Romains 11 continue. « Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Chaque être humain aura l'occasion de connaître Dieu, d'avoir ce voile retiré. Mais ce n'est pas tout le monde en même temps. Dieu commence petit. Il commence avec l'Église de Dieu aujourd'hui. Ce passage-là, dans Romains 11, parle des Juifs et Israël. Mais en fait, c'est l'histoire de toute l'humanité. Certains, Dieu garde en aveuglement jusqu'au moment où ils décident d'ouvrir leurs esprits. Et Dieu choisit de traiter avec diverses personnes à divers moments pour des raisons qui lui sont propres. Rappelons-nous qu'Apocalypse chapitre 3, verset 21 dit « À celui qui vaincra, je donnerai ». Nous devons surmonter. Nous avons un apprentissage parfois dur à accomplir. Apocalypse 2, verset 26 et 27, « À celui qui vaincra, de nouveau, c'est notre mission de surmonter, de vaincre. » Un dernier point que je dirais concernant l'Église de Dieu aujourd'hui, il existe un certain nombre d'associations qui portent le nom Église de Dieu, mais qui le modifient autrement que nous. Comment est-ce qu'on devrait comprendre cela? Certains, on peut dire, mais non, ça c'est clairement pas dans la vérité à cause d'une grosse erreur doctrinale ou à cause peut-être du culte de la personnalité ou autre chose qui montre que ce n'est pas vraiment, ils ne sont pas guidés par l'Esprit Saint. Mais qu'en est-il d'autres qui ne sont pas clairement dans la catégorie à exclure? Comment devrions-nous considérer notre appartenance à l'Église de Dieu? Il y a un certain nombre d'églises de Dieu aujourd'hui et on pourrait être tenté peut-être d'aller ici un peu, et là un peu, et là un peu, et là un peu. Et dans un sens, personne ne nous empêcherait de le faire. Mais dans un autre sens, nous devrions nous demander non pas ce que nous voulons faire, ce qui nous semble agréable à nous de faire, mais ce que Dieu voudrait que nous fassions. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que moi je vois mon appartenance à l'Église de Dieu? Je ne mentionne pas ceci pour essayer de vous dire de faire quoi que ce soit, mais plutôt, je veux nous encourager tous à réfléchir et avoir une conviction concernant là où nous devons être. Et quand nous avons cette conviction, nous devons y rester fermes et ne pas nous balader à droite et à gauche. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions? Rappelons-nous le principe de Romains chapitre 14, verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si on n'est pas absolument convaincu, c'est ça que Dieu veut que je fasse, mais je ne suis pas sûr, mais que je vais quand même aller là-bas. Voilà. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si nous permettons la possibilité que peut-être on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais on accepte quand même, la Bible l'identifie comme un péché. Si nous sommes convaincus que nous devons être dans un endroit, eh bien nous devons rester dans cet endroit et nous devrions avoir des raisons. Nous devrions avoir des raisons qui ne vont pas changer facilement. En discutant de cela il y a quelques années avec M. Bruce Gore, qui est le beau-père de M. Harper, est un pasteur de longue date à la retraite maintenant, mais il parlait de la situation de l'Église. Et il a demandé, si vous viviez dans l'Asie mineure du 1er siècle, et les sept églises d'Apocalypse 2 et 3 qui sont mentionnées là, étaient là, vous étiez au milieu, et vous devez choisir dans laquelle de ces églises est-ce que je voudrais aller. Je voudrais m'assembler avec laquelle? Avec Éphèse, qui a perdu son premier amour? Repens-toi ou j'enlève ton chandelier? Smyrne, persécutée et attaquée, incapable de bien autre chose que de survivre seulement, et Jésus les encourage à persévérer. Pergame, qui faisait des compromis avec la vérité par souci de commodité. Thyatire, une église corrompue, acceptant l'immoralité, faisant des compromis avec le péché. Sardes, spirituellement endormie au point d'être mort spirituellement. Philadelphie, petite, pas trop puissante, mais fidèle. Ou Laodicée, tiède, spirituellement aveugle à certaines vérités très fondamentales. Toutes ces congrégations sont identifiées comme l'Église de Dieu. L'Église, à chaque fois. Dieu les considérait comme l'Église de Dieu, quoique pour certains, ils disaient, vous êtes au point de ne plus faire partie de l'Église. Mais dans quelle Église, quelle congrégation est-ce qu'on aurait voulu y aller? Est-ce qu'on aurait dit à l'époque, oh, toutes font partie de l'Église de Dieu, ça n'a pas d'importance, je peux aller là où je vais circuler, voir... Ou alors, est-ce qu'on voudrait dire, moi, je veux être là où c'est le meilleur appui possible, là où c'est solide, là où Dieu dit de bonnes choses à propos de cette Église, plutôt que des avertissements. Je ne suis pas en train d'insulter personne ou de dire que nous sommes Philadelphie et les autres ne sont pas. C'est pas, c'est, nous ne disons pas cela. Il y en a qui le disent, mais nous ne le faisons pas. Je dis simplement que nous avons des choix à faire et que nous devons faire des choix éclairés. Nous devons bien réfléchir et avoir des raisons solides sur lesquelles nous basons notre conviction sur ce que nous voulons faire. Il y a dans l'Église un effort organisé pour enseigner des disciples. Il y a des pasteurs et d'autres enseignants qui travaillent ensemble pour nous aider tous. Si nous n'avons pas de foyer d'Église établi, nous ne savons pas où aller, eh bien, nous n'aurons pas de pasteur qui nous est assigné, qui pourra suivre notre progrès, venir à notre aide si nous trouvons dans une impasse, si nous ne faisons pas partie d'une congrégation où un pasteur nous connaît. Nous serons comme des brebis facilement égarées. Le résultat d'un faible engagement serait probablement une faible croissance. J'ai lu l'histoire une fois d'une histoire d'un athée qui a légué sa ferme au diable. Comme il pensait que ça serait une manière maligne de se moquer des chrétiens. Comment est-ce qu'ils peuvent laisser mes affaires au diable? Cela a laissé perplexe la cour pendant un temps, mais après un mois de délibération, la cour a rendu la décision suivante. Il est décidé que la meilleure façon de réaliser le vœu du défunt est de laisser pousser de mauvaises herbes à la ferme, le sol s'éroder et la maison et la grange pourrir. À notre avis, la meilleure façon de laisser quelque chose aller au diable est de ne rien faire. Et je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans. Il y a du vrai là-dedans. Peu de chrétiens admettraient un acte d'infidélité envers Dieu. Oui, j'étais infidèle. Mais beaucoup remettraient à plus tard quelque chose qui serait important à accomplir. Repousserait, refuserait de traiter des problèmes difficiles, on pourrait finir par remettre des choses à l'adversaire, par inattention et inactivité. Dans la parabole du semeur, nous avons dans Matthieu chapitre 13 une bonne semence qui donne 100, qui donne 60, qui donne 30. Nous voulons, n'est-ce pas, avoir le meilleur rendement possible, le meilleur rendement que nous pouvons donner à notre Père céleste. Le fruit porté dans ses champs, c'est le fruit de l'Esprit que nous trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. Il y a aussi la parabole des mines. Nous sommes appelés à une vie d'effort, nous sommes appelés à vaincre et à grandir. 10 mines, 5 mines, 1 mine. Notre but, c'est de devenir des rois et des sacrificateurs et de régner sur la terre avec Jésus-Christ. Regardons Apocalypse 5. Alors que nous touchons à notre fin, à la fin du sermon, Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume ou des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà notre rôle dans le royaume de Dieu, quand il sera établi. Et notre position sera déterminée par nos actions dans cette vie. Le salut est un don gratuit de Dieu, mais notre place, notre rôle, notre mission dans ce monde à venir encore sera déterminée en grande partie par notre activité aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important d'enseigner aux disciples à observer tout ce qui a été ordonné, ce que l'Église s'efforce de faire, parce que cela soutient notre croissance et notre développement spirituel en vue de notre futur service dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, assurons-nous de bien comprendre l'Église de Dieu, ce que c'est, le corps spirituel de Christ, composé de ceux qui sont appelés hors du monde, par Dieu, pour travailler ensemble, prêcher l'Évangile au monde, faire des disciples pour Christ. Nous devons travailler ensemble pour continuer notre propre éducation et l'éducation de ceux qui vont devenir disciples. Si nous faisons cela, nous nous préparons vraiment pour nos rôles à venir, lorsque nous régnerons avec Christ et aiderons le reste de l'humanité à accomplir la merveilleuse destinée que Dieu a préparée pour toute l'humanité. Voilà l'Église de Dieu.